seven, six, five, four, three, two, one.
The world is going and everything in it.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
L'Europe a inventé le roman, l'avion et le cinéma. Donc, l'Europe a inventé tout ce qui permet à l'homme de bouger, de dépasser les frontières et de vivre dans le monde.
La guerre mondiale dans le monde, ça continue, c'est quand même, il faut le dire, un petit peu le stand-by total.
Il regarde le monde tourner, un globe trottage à contre-courant, en compagnie de Thomas Lacombe.
Bonjour à tous mes chers globe-trotteurs. Cette semaine, pour ce 24e numéro d'Il regarde le monde tourner, je vais vous gâter pour clore en beauté notre série du mois de novembre sur les murs à travers le monde, librement inspirée du numéro 1253 du Courrier International. L'idée, c'était de commémorer comme il se doit les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Je crois qu'on l'a fait. Et pour finir cette série, je vous propose un vrai petit tour du monde avec pour étapes Karachi, Belfast et Berlin. Je vous ai en effet concocté ce tour du monde des murs de séparation au milieu urbain, à la fois pour parler des murs qui isolent toujours des quartiers antagonistes, et puis ceux qui, une fois le conflit résolu, sont réinvestis par d'autres logiques. Après un mot de notre commandant de bord, Clément, à la technique.
Vin chaud.
Je laisse la parole à deux stewards casqués pour les consignes d'usage et je vous donne rendez-vous around the world. Les murs de séparation, on ne les retrouve pas uniquement aux frontières, mais aussi à l'intérieur des villes. Alors, il y aurait eu plein d'exemples, chers auditeurs. Le plus connu, c'est certainement la barrière de séparation de Jérusalem. Vous apprécierez d'ailleurs l'euphémisme. Barrière de séparation pour décrire un mur de béton pouvant atteindre 8 mètres de haut. C'est certainement de l'humour juif. Mais non, Transistor Airlines ne vient pas d'atterrir à l'aéroport international de Tel Aviv David Ben Gurion, mais à Karachi, capitale économique du Pakistan et deuxième ville la plus dangereuse du monde, derrière Caracas, avec une moyenne de 10 morts violentes par jour en 2013. Ah ouais, quand même. Il faudrait un numéro entier, d'Il regarde le monde tourner, et encore, pour analyser comme il le faut, la criminalité à Karachi. Disons juste, pour faire simple, que Karachi mérite bien son surnom de mère des immigrés, et que l'extrême diversité confessionnelle et ethnique qui s'y déploie est une des causes de cette violence exacerbée. Ces tensions, elles sont d'autre part instrumentalisées par les partis politiques qui ont tous des liens avec la mafia. Rajoutez à cela une pauvreté et un chômage très importants, une certaine culture de la violence héritée des Balouches et des Sindhi et symbolisée par leur coutume du karo-kari, ainsi que la présence des talibans, et vous commencez à entrevoir le côté assez, oui, explosif du cocktail, un truc un peu plus chargé qu'une simple vodka martini, hashtag something à la mode. Vu le contexte que je vous ai résumé rapidement, c'est pas étonnant qu'un Karachi, les murs, les clôtures fleurissent. Le résultat, c'est que Karachi, c'est un peu un archipel, où le repli territorial est synonyme de ghettoisation communautaire, à l'image de cette demi-douzaine de ghettos hindous, dont l'entrée est très étroite, gardée, et où il est impossible de circuler en voiture. Le principal se nomme Narayanpura et 50 000 habitants y vivent. Mais l'isolement par les murs ne caractérise pas uniquement les différentes communautés et surtout les minorités. On retrouve ce même repli territorial, cette même logique de séparation dans les quartiers huppés de Clifton et Defence au sud de Karachi. Les gardes armées appartiennent à des agences privées, c'est pas des milices. Les clôtures sont hautes et high-tech, caméras, radars. Et si dans ces quartiers, la richesse y est ostentatoire, c'est que les riches sont devenus à Karachi une communauté à part et que là aussi, les murs ont créé ou recréé des identités complexes. The Do chante Going Through Walls sur Transistor et c'est parfois difficile hein, de les traverser, en effet, ces murs, même une fois le conflit terminé ou les tensions apaisées, même une fois donc que la cause de leur érection n'est plus d'actualité. C'est le cas, par exemple, des Peace Lines de Belfast, ces murs de la paix hein, qui ont été construits par l'armée britannique pendant la guerre pour séparer les catholiques des protestants. Les murs ont survécu au traité de paix de 98 et même si ces murs sont repris par des politiques d'aménagement urbain, par exemple, en étant végétalisés, ils maintiennent la séparation entre quartiers. C'est bien ça le problème. Encore aujourd'hui, les murs et leurs arbores sont les lieux d'affirmation des revendications nationales. Trottoirs, bandes d'incendie, lampadaires sont aux couleurs des drapeaux des deux pays, lesquels sont aussi hissés sur les poteaux électriques et les lampadaires. Dans les quartiers, on a des fresques murales exaltant l'identité collective, mettant en scène les spécificités culturelles ou rendant hommage soit aux milices paramilitaires loyalistes, soit, dans l'autre camp, aux factions de l'IRA. Cette signalisation de l'espace, elle est discontinue, mais les habitants, à Belfast, ils savent où s'arrête leur territoire. Bref, le conflit reste latent et la séparation confessionnelle, la règle. Chaka Ponk, Monkey on the Wall à l'instant sur Transistor, et des singes tagués sur le mur de Berlin. Bon, il y en a certainement, hein, je ne veux pas m'avancer, mais je pense. Quand les tensions s'achèvent, parfois les murs qu'elles ont fait naître eh bien, gardent une pesanteur conflictuelle, c'est le cas à Belfast. Mais là, on est en Allemagne pour examiner un cas où un mur, ici le plus célèbre de tous, a été investi par d'autres logiques et a perdu sa permanence conflictuelle. À Berlin, le mur, enfin, ce qu'il en reste, il est devenu un objet touristique. Du côté de l'East Side Gallery, le plus long tronçon restant du mur de la honte, avec ses peintures multicolores et ses graffitis, bah, c'est vraiment devenu un monument. Quand on y pense, c'est quand même assez paradoxal. Parce que combien de Berlinois se sont battus pour se débarrasser de ce mur, de ce stigmate qu'il fallait impérativement détruire et remiser au cimetière de l'histoire? Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique prisée et soigneusement entretenue, à tel point qu'en 2013, quand un projet de construction a menacé les vestiges d'Inside Gallery, ils étaient des milliers à manifester contre la destruction du mur. Oui, les temps changent. Ouais, c'est assez dingue hein, que ce mur de la honte soit devenu cette sorte de Disneyland. On reste donc à Berlin, vous l'aurez compris, pour examiner le tourisme lié au mur de Berlin dans toute son extravagance. À Berlin, dans chaque boutique souvenir, il y a un article qui s'arrache, les morceaux du mur. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes, dans des capsules en plastique collées sur des cartes postales ou en sous-verre pour 12,99€. Kitsch et glauque ? Oh, si peu. Et puis surtout, c'est un sacré piège à con, hein, parce que, à votre avis, combien de contrefaçons sont sur le marché ? Combien de bouts du mur du fond du jardin d'Helmut vendus sous l'étiquette « mur de Berlin » ? Mais ce n'est pas tout, hein. De nombreux hôtels et restaurants proposent des menus spécial mûrs, avec salade chopska, d'origine balkanique, et des œufs à la russe. Miam! Le Westin Grant a même imaginé une formule spéciale pic du mur. Pour le prix d'une chambre double à 382 € ou plus, les visiteurs peuvent aller se tailler un petit bout du mur directement sur le tronçon situé en face de l'hôtel. Devant cette marchandisation du passé, je peux dire, comme Imani, dans la BO du film d'Audrey Dana « Sous les jupes des filles »,« That I get crazy sometimes ». There's a whole lot of women in me, wondering what I mean, I see. Need the good, the bad, and the crazy. I come in many shades and shapes, so don't put up the barricades. I'm not here to make a war, but I get crazy sometimes. I'm out of my mind, I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. The Good, The Bad and The Crazy, sur un remix de Filatov et Karas. Et il y a encore plus crazy à Berlin, chers auditeurs. Bienvenue à Disneyland, alias Checkpoint Charlie, lieu hautement symbolique. Tout le monde, bah oui, a en mémoire les célèbres photos de ce point de passage berlinois. Eh bien, c'est devenu la grande fête à Neuneu. De faux soldats américains en uniforme font de la figuration, juste à côté des vendeurs de chapka installés sous un haut-parleur d'où retentissent les mots de Walter Ulbricht, premier président du conseil de RDA. Personne n'a l'intention de construire un mur. Évidemment, il y a un vestige de ce mur qui fut construit, hein, qui a fini par tomber, et les touristes le photographient à l'envi. Personne ne leur dit qu'il s'agit, cerise sur un gâteau déjà bien crémeux, d'une reconstruction qui n'est pas d'origine, le mur de Checkpoint Charlie. L'Allemagne réunifiée, c'est aussi le triomphe du capitalisme? Qui l'a oublié? La BO du film Goodbye Lenin, signé Yann Tiersen, pour terminer cette émission, ainsi que pour clôturer cette série de trois émissions consacrées aux murs à travers le monde, en ce mois de novembre, où nous commémorions donc les 25 ans de la chute du mur de Berlin. La boucle est bouclée, hein, puisque je commençais cette série il y a 2 semaines par Rostropovitch, jouant le prélude de la suite pour violoncelle de Bach, et nous voici disant goodbye à Lenin. Il est d'ailleurs temps que je vous dise à mon tour goodbye, chers auditeurs. Mais avant cela, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mercredi 10 décembre pour un nouveau globe-trottage loin des sentiers rebattus par les médias traditionnels. D'ici là, surtout, faites comme moi. N'oubliez pas de regarder le monde tourner.